Marc chapitre 12. Et oui, les enfants peuvent aller, ceux qui vont le faire, avec Anne, à l'école dimanche. Nous lisons donc dans Marc chapitre 12, les versets 35 à 37. Rappelez-vous que nous sommes dans cette dernière semaine de la vie terrestre de Jésus. Il a été l'objet de nombreuses questions visant à le piéger, à donner une occasion pour l'exécuter, en fait. Et ayant amené les gens à se taire par ses réponses, et personne n'ose plus lui poser une question, dans cette journée où Marc nous oriente dans ce passage, Jésus pose lui-même une question. Verset 35. Jésus, continuant à enseigner dans le temple, dit « Comment les scribes disent-ils que le Christ est fils de David ?» David lui-même, animé par l'Esprit Saint, a dit « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » David lui-même l'appelle Seigneur. Comment donc est-il son fils, le fils de David? Et une grande foule l'écoutait avec plaisir. Je vais tout simplement vous lire un petit extrait du passage parallèle en Matthieu chapitre 22. Matthieu donne cet autre détail. Comme les pharisiens étaient assemblés, parce que vous vous rappelez que les pharisiens étaient ensemble en groupe et avaient envoyé un des leurs qui était scribe vers Jésus pour poser ses questions sur le plus grand commandement. Donc, une fois que Jésus répond et personne n'ose plus lui poser des questions, il y a ce groupe de pharisiens dont certains sont des scribes pharisiens. Et comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea. Vous voyez que maintenant, c'est Jésus qui pose la question en disant « Que pensez-vous du Christ ? De qui est-il le Fils ?» De qui est-il le Fils ? Ils lui répondirent « De David. » Et Jésus veut les amener à voir que la réponse est non, non seulement de David, bien sûr, mais aussi de Dieu. Parfois, dans la vie, une question, ou poser la bonne question, est absolument critique. Je ne sais pas si vous avez jamais vu un épisode de Hercule Poirot, ce détective de l'écrivain Agatha Christie. Et il y a eu des dizaines d'épisodes parce qu'elle a écrit, semble-t-il, des centaines de romans dont il est le personnage principal. Oui, il trouve presque toujours le coupable, et de manière à ce que, à la fin, vous êtes complètement bluffé parce que vous n'aviez aucune idée de qui c'était. Et il trouve. C'est vraiment étonnant. J'en ai regardé plusieurs et je suis surpris que vers la fin de l'épisode, je ne sais pas qui l'a fait. Et quand Poirot dévoile ça, tu dis « Ah !» Mais si vous avez regardé ces épisodes, et sinon vous allez comprendre, tout le monde autour est en train de poser plein de questions pour trouver le coupable. Et il y a souvent les policiers qui sont sur la scène et qui posent les questions typiques. Mais typiques. Quels étaient les mobiles de celui-là qui est suspect? Où était-il à tel moment? Pourquoi avait-il telle chose dans sa possession? Quelle était sa relation avec la personne décédée? Alors que Poirot donne relativement peu d'importance à ces questions, et pour lui, il dit la question c'est pourquoi est-ce que la boulangère du village ne fait pas de pâtisserie? Si je sais ça, je vais savoir qui est le coupable. Et on est complètement époustouflé. Mais il montre par ce détail que tout le monde était en train de poser la mauvaise question, de s'intéresser à la mauvaise chose. Et que lui, il se posait la bonne question. Bon, avec Poirot, c'est toujours une question qui a l'apparence de quelque chose d'inconséquent, n'est-ce pas? Mais il y a aussi des fois dans la vie où la question qu'il faudrait que vous posiez, la bonne question qui est critique pour votre vie ou ma vie, n'est pas une question apparemment inconséquente, mais c'est une question qui, de toute évidence, est une question fondamentale. Je ne sais pas si vous vous rappelez dans le livre de Josué, à un moment donné, un homme, lorsqu'ils sont sur le point d'aller dans le pays de Canaan, un homme vient à Josué la nuit, n'est-ce pas? Il vient devant Josué avec un épée tirée. Et Josué pose la mauvaise question, alors qu'il aurait dû poser la bonne, qui était une question grave. Il a posé la question, est-ce que tu es pour nous ou pour nos adversaires? Donc la question était, monsieur, vous êtes de quel côté? Et c'était l'ange de l'Éternel, c'était le Seigneur lui-même venu devant la face de Josué. Et il répond, ni l'un ni l'autre. Je suis le capitaine des armées célestes. En d'autres termes, Josué aurait dû dire, qui es-tu? Qui es-tu? Parce qu'une fois qu'il sait qui il est, ça change tout. Et il tombe sur ses genoux. Et toute la situation devient différente. Mais il faut poser la bonne question, n'est-ce pas? Et donc nous voyons que les leaders religieux, pendant des jours et des jours, pendant cette semaine où nous sommes avec Jésus dans le temple, juste avant sa mort, et le Seigneur est en train de lutter pour les âmes éternelles, enfin les âmes immortelles des âmes, comme vous et moi. Il est en train de lutter, de bagarrer, parce que ces leaders religieuses veulent dévier le peuple pour croire ce qui n'est pas vrai sur la question fondamentale. Une question tellement grave, et il y a une question tellement grave dans ta vie, tellement importante pour toi, que si tu loupes, et si tu ne te poses pas cette question, tu perds tout. Donc, ils ont posé une question, disons, politique au sujet des impôts. Devons-nous payer des impôts à César? Ils ont posé une question sociale. Cette dame qui avait été l'épouse de sept frères, elle sera l'épouse de qui dans le temps à venir? Et ils ont posé une question éthique. Quel est le plus grand des commandements? Et les gens sont comme ça, je trouve. Quand tu viens, tu leur parles de Dieu, tout de suite, ils vont vers des questions typées, typiques, toujours les mêmes. Toujours les mêmes. Et pour certains, c'est tant de souffrances dans le monde. Comment est-ce que Dieu peut exister? Et pour d'autres, c'est pourquoi il y a tant de religions. Vous voyez, c'est presque toujours les mêmes choses. Et le problème, c'est que comme les scribes, ces questions sont les mauvaises questions. C'est pas la chose principale. Et toutes ces questions détournent l'attention des gens de la question qui leur concerne et qui vous concerne. Et là, nous allons maintenant, aujourd'hui, pour vous et pour moi, faire face à cette question. Parce qu'il faut que tout le monde fasse face à cette question. Donc, je voudrais vous dire au début de ce sermon, tout simplement, que nous voyons qu'on lui pose plein de questions pour le piéger et pour parler de ceci et cela. Et Jésus, maintenant, a envie de leur poser une question pour rediriger, pour les obliger à faire face à quelque chose qui est là, qui est devant vous aujourd'hui, qui est posé. Et Jésus le place et le pose devant vous et il dit, vous êtes obligés, vous devez faire face à cette question principale. Maintenant, je peux peut-être confirmer pour vous que le Seigneur a envie que vous vous fassiez face à cette question. Je trouve que les non-chrétiens, un de leurs grands problèmes, et nous aussi, mais surtout avant de se convertir, c'est que l'homme ne réfléchit pas à la chose principale. L'homme évite les questions fondamentales. Et je vous demande, est-ce que vous êtes en train, par votre vie, de confirmer ce que je viens de dire? Est-ce que tu évites à tout prix de considérer même, juste de considérer, cette question, qui est-il Jésus de Nazareth, en fait? Mais c'est la question que le Seigneur voulait toujours nous obliger un peu, nous forcer à regarder. Regardez ceci. D'abord, par sa manière de parler. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, ni qui est le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Qui peut dire ça? Qui es-tu pour dire ça? Il dit à un autre moment, Jésus, celui, en parlant de lui-même, celui qui vient d'en haut et au-dessus de tous, celui qui est de la terre, est de la terre. Il parle comme étant de la terre. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez qu'en elles, vous avez la vie éternelle, mais ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Qui est-il pour qu'il parle comme ça? Et puis par ses actes. Jésus, vous rappelez, il fait taire le vent et les vagues avec une parole. Et quelle est la réaction? Ils se dirent les uns et aux autres, quel est donc celui-ci qui obéisse même le vent et la mer? Ou bien quand il pardonne à la femme prostituée ses péchés, et les gens qui étaient à la table se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Ou bien parfois, Jésus pose tout simplement la question lorsqu'il est à Césarée et Philippe, il dit à ses disciples, qui dit-on que je suis? Qui dit-on que je suis? Et ça, c'est la question que le Christ, par ses actions, évidemment, normalement, ce monde autour de nous, par le récit de la vie historique de Jésus de Nazareth, devait en train d'être posé une question tout le temps. Dans les médias, dans les cercles philosophiques, dans les bars, qui est-il? Est-ce vrai qu'il est ce qu'il a dit? Parce que si ça c'est vrai, toute autre question dans la vie, toute chose change. Je me demande si en tant que témoin chrétien, vous placez cette question-là devant les gens. Qui est-il? Je cherche la vérité. Qui est-il? Qui est ce Jésus? Donc, ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. Êtes-vous en train de poser la bonne question? La deuxième chose, c'est que nous voyons dans cet incident dans la vie de Jésus que Jésus dirige nos pensées vers la question suprême en nous conduisant à faire face à ce que disent les Écritures. Regardez bien, Jésus a une manière très efficace de nous obliger si nous avons un cœur ouvert, si nous avons des oreilles pour entendre. Il sait comment nous amener à être devant cette question principale. Il prend les Écritures, il prend un passage qu'ils connaissent très très bien, le psaume 110 qu'ils chantent, c'est leur recueil, ils le chantent tout le temps, et tout le monde en Israël, nous savons d'après les écrits des rabbins, tout le monde sait que ce psaume parle du Messie qui doit venir. Tout le monde le sait. Par les termes, on l'a lu au début du culte. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Tu vas régner sur les nations. N'est-ce pas? On sait que c'est le Messie. Donc Jésus prend ce passage et ce qui est intéressant, si vous regardez en Marc chapitre 12, et je reprends le passage. Regardez bien au verset 35, Jésus continuant à enseigner dans le temple dit, comment les scribes disent-ils que le Christ est fils de David? David lui-même, animé par l'Esprit Saint, a dit, et puis il cite le passage, et puis le verset 37, David lui-même l'appelle, appelle le Christ, le Seigneur, comment donc est-il son fils? Ce qui est remarquable, c'est que Jésus ne parle pas du tout de lui-même. Il ne se réfère pas à lui, il ne dit pas ce passage parle de moi, il met cela dans un contexte complètement détaché de lui et objectif, et il veut tout simplement faire une étude biblique. Il dit, prenez le passage et répondez-moi, le Christ, dont vous savez qu'il est l'objet de ce passage, selon le passage, comment peut-il être le fils de David? Parce qu'il y a plein de passages dans l'Ancien Testament qui disent que le Messie est un descendant de David. Il doit venir de la lignée de David. Mais aidez-moi à comprendre le passage. Parce que le passage, c'est David qui parle et il dit que Yahvé, en hébreu, Yahvé, l'Éternel, dit à mon Adonai, dit à mon Seigneur. Et David appelle ce Messie mon Adonai, mon Seigneur. Mais comment ce Messie peut-il donc être le fils de David? Parce que dans la culture juive, un descendant est moindre que son ascendant. Et le petit, le grand-père ne va pas appeler le petit-fils mon Seigneur. C'est impossible. Ça ne peut pas exister dans les relations simplement humaines. Donc, il veut faire ce que tout bon enseignant de la Bible doit faire, si vous enseignez la Bible ou si vous prêchez un jour, on doit prendre la Bible et obliger les autres à faire face à tout ce que dit l'Écriture. Pas seulement des parties, je prends cette partie, ça m'arrange, mais dans dans la prédication expositive que nous faisons dans cette église, nous étudions la Bible verset par verset parce que ça nous oblige à faire face à tout ce que dit l'Écriture. Et nous devons, c'est ce que Jésus fait. Maintenant, vous devez faire face à ce problème. Le fils de David qui est Messie est le Seigneur de David. Comment est-ce qu'il peut être le fils de David et le Seigneur de David? Expliquez-moi. Avec votre interprétation que vous avez jusqu'ici du Messie. Parce que rappelez-vous que leur Messie est un simple homme qui est fils de David parce qu'il est juif et parce qu'il va délivrer les juifs politiquement d'un joug romain. D'accord? Mais ce qui nous étonne de notre Seigneur ici, c'est qu'il fait tout cela de la manière la plus sympa pour ses interlocuteurs. C'est-à-dire, il met ça, il détache ça, il fait quelque chose de complètement objectif, il ne les brusque pas en disant, vous avez vu mes œuvres, ne suis-je pas la personne qui figure dans ce psaume? Il ne fait pas ça. Il sait qu'ils ne sont pas prêts à accepter cela. Donc, il fait juste l'étude biblique. Et il pose la question lorsqu'ils sont tous assemblés. Il n'isole pas un d'entre eux pour le viser. Il donne la question, et c'est une question de la manière typique des scribes. C'était une sorte de question par laquelle les scribes cherchaient à résoudre des contradictions apparentes. Ils faisaient ça souvent. Donc il emprunte une voie qui est habituelle, et quand ils n'ont pas de réponse, Jésus ne répond pas. C'est ça qui est très étonnant, n'est-ce pas? Comment est-ce que le Messie peut être à la fois le fils de David et le Seigneur de David, et les théologiens professionnels ne répondent rien? Et Jésus laisse la situation là, avec une question qui pend dans l'œil. Parce que il veut nous et vous responsabiliser. Cette question pend dans l'air pour vous aussi. Il ne va pas venir vous mettre une affiche céleste devant le visage. Il vous laisse cette question. Ça pend. Il est sympa avec vous, n'est-ce pas? Qui est-il? Imaginez que vous êtes théologien professionnel et que devant le public, parce que nous savons d'après Matthieu qu'il dit ça devant la foule, et tout de suite il se tourne vers les disciples et les foules. Mais devant la foule, on vous pose une question qui est une question très évidente, très lourde, très présente, on ne peut pas l'éviter. Ce passage nous oblige à nous dire, mais qui est ce Messie? Pour que Dieu puisse lui dire, assieds-toi à ma droite et tu seras un sacrificateur pour toujours. Et pourtant, c'est le Fils de Dieu. Donc, tu es théologien professionnel et il y a une question vraiment qu'on ne peut pas passer à côté. Et ce n'est pas une chose secondaire, c'est vraiment au cœur de ta religion. Parce que la religion des Juifs, c'est autour du Messie. N'est-ce pas? Qui est le Messie? C'est la question du judaïsme. Et là, devant tout le monde, avec votre doctorat en théologie de la faculté de Jérusalem, Jésus vous pose la question. Ben, comme c'est votre job, comme c'est la question principale, comme ces passages, pas seulement celui-ci, mais quand même celui-ci, nous met devant un truc vraiment mystérieux, alors c'est à vous de donner la réponse aux gens. Quelle est la réponse? Et ils n'ont rien à dire. Rien à dire. Et Jésus le laisse là. Alors tu rentres à la maison, théologien professionnel que tu es, et la question pend dans l'air et te suit. Je ne peux pas répondre à ça. Ça ne va pas s'en aller, cette question. C'est tellement grave, cette question. C'est tellement important, cette question. Et pourquoi se fait-il que moi, je ne peux pas répondre? Et pire que ça, j'ai aucune idée avec ma façon de penser. Aucune idée. Et peut-être sans être théologien professionnel, vous êtes un peu comme ça. Cette question pend dans l'air, mais vous voulez tout simplement l'éviter parce que, avec votre manière de penser de la vie, de votre existence, de le but de votre vie, etc., cette question est très, très gênante. Et c'est pourquoi Jésus, dans sa grâce, la laisse présente. Parce que c'est la meilleure manière. Et c'est pourquoi je laboure aujourd'hui. Parce que moi, je veux laisser cette question lourdement dans l'air. Vous ne pouvez pas. esquiver. Pour toi, qui est Jésus-Christ? Qui est Jésus-Christ? Je sais ce qu'on a dit de lui, on a dit beaucoup de choses. C'est un homme historique, c'était un homme de bon, c'était un prophète, mais vous ne pouvez pas vous en aller aussi facilement que cela. Vous avez entendu ce que Christ a dit. Celui qui m'a vu a vu le Père. Je suis descendu du ciel. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. Maintenant, qui est-il? Je veux juste devenir un peu plus précise en regardant le passage. Donc nous voyons qu'il dit, comment les scribes disent-ils que le Christ est fils de David? David lui-même a dit. Donc Jésus relève une différence d'attitude et de perspective envers le Messie chez David et chez les scribes. Parce que Jésus a dit, comment est-ce que les scribes peuvent dire alors que David dit? Vous voyez? C'est un peu gênant lorsque tu es mis en opposition avec le roi David. Et on vous fait voir que vous n'avez pas la même attitude envers le Messie que David. Donc là, c'est la première chose que nous devons faire face. Est-ce que vous avez la même attitude envers Jésus-Christ que les prophètes et les apôtres et les croyants de tous les siècles? Ensuite, Jésus prend ce psaume 110 et si vous voulez vraiment comprendre le poids de sa question, il faut se rappeler que les scribes connaissaient très bien tout le contenu de ce psaume. Saviez-vous que le psaume 110 est le passage de l'Ancien Testament le plus cité dans le Nouveau? Il est cité 19 fois dans le Nouveau Testament. Il est le passage le plus important de l'Ancien Testament. Pour le nouveau. Dans un sens, oui. C'est le passage de Pierre dans la première prédication chrétienne le jour de la Pentecôte. C'est son passage. Et quand nous regardons ce passage, nous voyons que ce fils de David, il s'assoit à la droite du Créateur. Il est le collègue du Dieu éternel dans sa domination de l'univers. Nous voyons que ce règne est un règne qui est sur tout le monde, parce que dans le psaume, vous avez vu tout à l'heure qu'il est parlé des rois qui sont jugés par lui et des nations qui seront amenées sous son règne. Nous voyons que c'est un règne qui est éternel. Tu es sacrificateur et roi, mais tu détiens tes fonctions pour toujours, dit le passage. Il y a quelque chose de mystérieux qui est en train de se passer là, qui dépasse les idées nationalistes des Juifs pour leur Messie. Quelque chose de beaucoup plus grand que Dieu est en train de faire, qui nous dépasse ici, nous tous. Nous voyons que ce Messie dont David parle, il est déjà vivant alors qu'il n'est pas encore venu. Car David dit, l'Éternel dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. Et David sous-entend qu'il est le Seigneur des vivants et des morts aussi dans ce passage. Parce qu'il est mon Seigneur. Alors qu'il n'est pas venu, et quand il viendra, je serai mort. Mais il est mon Seigneur. En tout cas, il y a des choses vraiment étonnantes dans ce passage. Et tout cela doit nous amener à dire, mais en réalité, et là nous devons quitter les lieux communs des gens, qui disent sans aucune évidence Jésus est ceci ou Jésus est cela. Non, nous ne pouvons pas faire ça avec Jésus de Nazareth. Nous devons examiner pour nous-mêmes sa vie et dire, mais qui est-il alors? Richard Gans était un juif qui a grandi dans une famille pieuse aux États-Unis. Il étudiait les écritures de la Bible juive 5 jours par semaine en tant que jeune en hébreu et allait à la synagogue tous les samedis. À un moment donné, il est devenu psychiatre dans un hôpital. Il a eu son doctorat en psychiatrie. Il est devenu docteur dans un hôpital psychiatrique. Et à travers sa pratique, il est devenu vraiment déçu, très déçu de la psychiatrie qui ne marchait pas, qui ne changeait pas les vies. Bon, je dois dire à cette époque qu'il avait abandonné sa foi dans le judaïsme, tout en restant très, très juif. Il l'avait abandonné parce que son père est mort lorsqu'il était jeune. Et il a tout jeté. Mais lui et sa compagne, à un moment donné, sont allés en Europe pour un peu de vacances, pour faire un peu le tour d'Europe. Et déçus, n'ayant trouvé aucune réponse à la vie, quelqu'un lui a dit, mais il y a un coin qui peut t'intéresser dans les Alpes, ça s'appelle l'Abri. Et là, il y a un homme qui s'appelle Francis Schaeffer, et c'est un homme qui répond aux questions vraiment les plus difficiles et fondamentales. Il est allé là, et il a trouvé des gens qui vivaient là, en communauté. Tout le monde devait aider à faire le jardinage, cueillir les légumes, faire les repas, etc. Et il est resté là avec sa compagne pendant plusieurs jours. Il trouvait les gens intéressants, mais c'était des chrétiens. Et là, c'était assez insupportable pour lui, le christianisme. Parce que rappelez-vous, pour le juif, Jésus de Nazareth est un blasphème. Et voilà ce qu'il raconte. Les jours suivants étaient intéressants. Ils étaient remplis de discussions sur les sujets religieux. Mais en tant qu'homme, sans aucune conscience de l'existence de Dieu, voilà ce qu'il est devenu, en tant qu'homme qui se voyait comme une accumulation de molécules rassemblées par le hasard dans un monde absurde et sans raison d'être, j'écoutais, je discutais avec ces gens, mettant en cause leurs croyances et me moquant d'elles. Puis un jour, un homme m'a demandé s'il pouvait me lire quelque chose de la Bible. J'ai consenti et voici le passage qu'il m'a lu. « Voici, mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect était différé de celui des fils de l'homme, de même il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté, ils apprendront ce qu'ils n'avaient pas entendu. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire, méprisé, abandonné des âmes, âme de douleur et habitué à la souffrance. » Et là, M. Gans dit, « J'avais déjà entendu cette expression, l'âme de douleur est habituée à la souffrance, mais je ne me souviens plus d'où. » Mais à ce moment, j'ai compris ce qu'il était en train de faire, ce monsieur chrétien en face de lui. Il était en train de me lire un passage au sujet de Jésus. Je me suis dit, « Est-ce qu'il sait ce qu'il est en train de faire lisant ces trucs chrétiens à un juif ?» Mais je me suis dit, « Sois patient. » La lecture continue. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés. Et puis Gans dit ceci. Des images, des peintures de la Renaissance se sont soudainement présentées à mon esprit. Je n'étais pas le mec juif typique, j'avais un doctorat, j'étais cultivé, j'avais vu des peintures montrant la crucifixion. Je sais que leur mec avait été percé. Ils voulaient me lire des histoires sur Jésus et je sentais la colère surgir en moi. La lecture continue. Brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Et Gantz dit, Jésus a porté tes péchés. Je ne pouvais plus le supporter. Ce n'était rien de plus qu'une manière bon marché d'éviter le travail à long terme de la psychoanalyse dont les gens avaient besoin. La lecture continue. Il a été maltraité et opprimé et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants, frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec les riches. Et Gantz dit, je me suis souvenu des portraits que j'avais vus de Jésus sur une croix avec deux brigands, un de chaque côté de lui. Trois croix. J'étais au courant de tout cela. Il n'allait pas me duper avec cette rhétorique. La lecture continue. Je suis presque à la fin. Quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'y eut point de fraude dans sa bouche, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et Gantz dit, ah oui, voilà le mythe au sujet de la résurrection. Il prolongera ses jours. Ils glissent cela dans toute leur littérature, n'est-ce pas? Ils ne peuvent pas accepter la réalité qu'une personne morte reste morte. Grandissez! Débarrassez-vous de vos névroses enfantines. Et admettez que quand vous serez mort et c'est définitif. La lecture continue. Dernière partie. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'âmes. Et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants. Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis en nombre des malfaiteurs parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Et Gantz dit ceci. Quand il a terminé la lecture, il a écrit ça dans au moins deux livres qu'il a écrit, Richard Gantz. Il est auteur de plusieurs livres vraiment très intéressants. Il dit, quand il a terminé la lecture, il m'a regardé et dit, « Alors, qu'en penses-tu ? » J'étais sans doute impatient de lui faire bénéficier de la lumière de mes pensées là-dessus. Il était évident qu'il était en train de me citer des documents de leur Nouveau Testament chrétien et j'ai répondu donc sans un moment d'hésitation, n'importe quelle personne présente en ce moment à la crucifixion aurait pu écrire des choses comme cela. Qu'est-ce que cela prouve? Il m'a tendu la Bible et une milliseconde après l'avoir prise, ma vie a basculé. Parce qu'il s'est converti, il est pasteur aujourd'hui. Une milliseconde après l'avoir prise, ma vie a basculé. Il venait de lire de ma Bible, les Écritures hébreux. Je me sentais comme si quelqu'un avait pris une épée et m'avait déchiré en morceaux. Quand l'homme en face de moi a dit que cela avait été écrit 700 ans avant la naissance de Jésus, je me suis senti comme mort. Ah, si seulement cela avait été Krishna ou Bouddha, pourquoi fallait-il que ce soit lui, Jésus. Je savais à l'instant que si Jésus avait écrit l'histoire à son propre sujet dans ma Bible, et si le Dieu des non-juifs était donc le Dieu des juifs et vraiment Dieu, il faudrait que ma vie toute entière lui soit désormais à lui. La question ce jour dans les Alpes pour Richard Gantz était « Qui est-il, ce Jésus de Nazareth ?» Et il a compris ce jour-là qu'il était le fils de David, mais il était le fils de Dieu. Il était le Dieu éternel, le fils dans cette trinité. Est-ce que nous avons tous fait cela, fait face à cela? Et qu'est-ce que ça changerait pour toi? Est-ce que ça ne doit pas tout changer? Dans la suite, nous voyons que Jésus tourne vers la foule, c'est plus clair en Matthieu et Luc. Mais il dit dans le verset 38, il leur disait dans son enseignement, gardez-vous des scribes, ces scribes qui n'ont pas pu répondre à cette question. Gardez-vous des scribes qui aiment à se promener en robe longue et à être salués dans les places publiques, qui recherchent les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les festins, qui dévorent les maisons des veuves et qui font, pour l'apparence de longues prières, ils seront jugés plus sévèrement. C'est-à-dire ceux qui ne reconnaissent pas qui est Jésus. La réponse à la question posée devant nous sont des guides dangereux pour vous. Hier, nous avions des témoins de Jéhovah qui sont passés dans toutes les maisons de notre voisinage. Et je vous dis que toute personne semblable à eux qui répondent de manière mensongère à la question que Dieu met devant tous les hommes, la question à laquelle vous devez répondre, toute personne qui répond mal à cela est dangereuse. Jésus commence en disant, gardez-vous des scribes, ceux qui viennent de montrer qu'ils ne peuvent pas reconnaître qui est Jésus. Que ce soit les mormons ou les témoins de Jéhovah ou d'autres, vous qui êtes en prise avec cette question, et même les gens convertis peuvent être attaqués par des doutes là-dessus. Je vous supplie de ne pas aller auprès de ceux qui ne savent pas répondre. Regardez leur vie. Regardez ces scribes. Ils veulent deux choses. Ils veulent l'honneur, ces robes blanches, les premières places dans les festins, n'est-ce pas? Et ils utilisent la religion pour cela. Oui, il y a des gens qui font ça. C'est subtil parfois, mais c'est le but. Et deuxièmement, ils veulent du fric. Ils dévorent les maisons des veuves. Et vous avez deux choix. Vous allez vous rejoindre des gens comme ça, en répondant de la même manière qu'eux à la question suprême. Et vous serez véritablement dans le même camp. Parce que vous aussi, vous allez dire non à la Seigneurie de Jésus parce que vous voulez l'exaltation et vous vouliez les richesses, les choses de ce monde. Vous ne voulez pas la Seigneurie du Christ sur vous, mais vous voulez des choses que vous pouvez, dont vous pouvez être Seigneur. Ou bien, est-ce que vous allez faire face à cette question? Une question qui est enceinte de bonnes nouvelles. Parce que dans la réponse à cette question, pourquoi est-il à la fois Seigneur de David et fils de David, nous avons l'énigme. Pourquoi est-ce que Dieu lui-même deviendrait jamais, jamais homme? Et la seule réponse à cette question, c'est que c'est pour sauver l'homme. N'est-ce pas? Parce que pour sauver quelqu'un tombé dans la boue, il faut aller là où il est, dans cette boue, pour le retirer. Donc, lorsque je vous dis non pas que Jésus est Seigneur, ce n'est pas mon propos aujourd'hui. Je ne suis pas en train de vous dire tout simplement que Jésus est Dieu. Jésus l'a posé de la manière opposée. Il a dit, comment est-il le fils de David? Jésus mettait plus d'accent sur l'humanité de Jésus presque. Mais il voulait leur montrer. Le problème, c'est qu'ils soient les deux. Et moi, je vous pose des questions. Est-ce que vous pouvez accepter que celui qui est homme, Jésus de Nazareth, qu'il soit le Dieu éternel qui est venu? Le livre de Romains, et je finis là, le livre de Romains dit que dans cette reconnaissance de Jésus en tant que Dieu devenu homme pour sauver et tout le salut. C'est tellement facile et tellement simple. La Bible dit que vous, si vous acceptez vraiment du cœur, simplement ça, que le Dieu qui est vraiment là, le Créateur, est devenu homme pour vous sauver, et vous le croyez que ce Jésus et ce Dieu devenu homme, vous êtes sauvés parce qu'il a tout fait. Écoutez bien. La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur. C'est ça. Que ce Jésus de Nazareth, l'homme, est Seigneur. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Que le Seigneur puisse aider chacun de nous à rester avec cette question jusqu'à ce qu'elle soit vraiment résolue. Si vous l'avez résolue, je vous demande tout simplement, comme je me demande, est-ce que nous faisons assez attention à cette grande réalité que nous avons pour toujours un Sauveur qui est à la fois la racine de David, comme dit l'Apocalypse, et le lion de Juda, qui est pour toujours Dieu homme à la droite du Père. Nous avons besoin d'y réfléchir, n'est-ce pas? Nous allons chanter le numéro 67 dans le recueil « À l'agneau sur le trône ».